Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour.
L'actualité de ce mardi, c'est le meurtre d'un prêtre en Vendée. L'assassin présumé interné d'office hier soir. Enquête ouverte pour homicide volontaire. Avec Jean-Philippe Degnaud, dès le début de ce journal, nous ferons le point sur la situation judiciaire de cet homme, un Rwandais arrivé en France en 2012. Les autres titres, Laurence ?
Situation très inquiétante sur le front du Covid en Martinique. L'île se reconfine complètement. Les touristes sont appelés à rentrer chez eux et les hôpitaux saturés, obligés de trier les malades. Elle avait brandi une pancarte antisémite lors d'une manifestation samedi dernier contre le pass sanitaire à Metz. Cette enseignante est suspendue par l'éducation nationale. Total Énergie, énergie au pluriel, où quand le pétrolier veut montrer sa bonne volonté pour un monde climato-compatible. Et au lendemain du rapport du GIEC, cette illustration en Isère, au sein du magnifique parc des Écrins, un refuge fermé aux amoureux de la montagne, le glacier sur lequel il est posé n'est plus suffisamment en bon état tant il a fondu.
Les invités de la matinale, à 7h45, nous reviendrons sur le meurtre de ce prêtre avec Héloïse de Neuville, journaliste à La Croix, auteur d'une enquête publiée le mois dernier sur cet homme incendiaire présumé de la cathédrale de Nantes, le profil de ce Rwandais, sa proximité avec la communauté catholique jusqu'à ses passages à l'acte, essayer de comprendre sans jamais cautionner. Et puis à 8h20, retour sur le rapport alarmant des experts de l'ONU avec Jean Jouzel, climatologue, ancien vice-président du GIEC, et Emma Aziza, hydrologue. Pourquoi le réchauffement climatique s'est-il accéléré? A-t-on atteint le point de rupture? Nous poserons toutes ces questions à nos invités. On attend aussi les vôtres, chers auditeurs. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Interné d'office, la garde à vue du meurtrier présumé du père Olivier Maire hier en Vendée a été levée dans la soirée. Son état psychiatrique n'est pas compatible avec cette mesure. L'homme de 40 ans, suspecté d'avoir incendié la cathédrale de Nantes l'an dernier, était hébergé dans une communauté religieuse à Saint-Laurent-sur-Sèvre. De nationalité rwandaise, Emmanuel Abayisenga était sorti le 29 juillet d'une hospitalisation en psychiatrie. Il vivait depuis en liberté sous contrôle judiciaire. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Laurence.
Alors plusieurs mesures d'expulsion avaient été prononcées à son encontre, mais aucune n'avait abouti.
Oui, la dernière OQTF, obligation de quitter le territoire français, lui avait été délivrée en 2019. Mais Emmanuel Abayisenga avait déposé un recours devant le tribunal administratif. Recours en cours de traitement quand est survenu l'incendie de la cathédrale de Nantes le 18 juillet 2020. Pour lequel il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Alors bien sûr, son sort judiciaire a pris le dessus sur son sort administratif et il n'était bien évidemment plus question de l'expulser afin qu'il puisse répondre de ses actes devant un tribunal.
Alors Jean-Philippe, dans ces conditions, pourquoi sa détention provisoire s'est-elle achevée le 30 mai dernier ?
Alors les détentions provisoires sont limitées dans le temps. Celle d'Emmanuel Abayisenga se serait de toute façon achevée au bout d'un an, c'est-à-dire le 20 juillet dernier. Le juge d'instruction a ordonné son placement sous contrôle judiciaire dès le 30 mai, notamment parce qu'il présentait une garantie d'hébergement au sein de cette communauté religieuse. Il a ensuite été hospitalisé une première fois en psychiatrie avant de revenir il y a 10 jours auprès des missionnaires montfortins. On ne sait pas encore dans quelles circonstances précises a été commis le crime dont il s'accuse.
Merci Jean-Philippe Degnaud.
1200 cas pour 100 000 habitants. La Martinique enregistre l'un des plus forts taux d'incidence de France.
Conséquence, la Martinique, qui était déjà sous couvre-feu, va fermer progressivement ses hôtels, ses locations saisonnières et ses commerces non essentiels. Le préfet demande aux touristes de partir, à commencer par les plus fragiles. Les précisions de Stanislas Cazel, le préfet de Martinique.
Les touristes vulnérables sont les touristes non vaccinés ou qui ont des soucis de santé. C'est potentiellement des personnes qui peuvent tomber malades, se fragiliser et nous leur demandons de quitter le territoire. On prendra le temps pour cela. Les compagnies aériennes sont prévenues et mobilisées. Ça prendra plusieurs jours. Les hôtels ne pourront du coup plus accueillir de touristes. En revanche, ils seront mobilisés pour accueillir des renforts, parce que le territoire va accueillir beaucoup de renforts, de pompiers, de soignants, d'aides-soignantes, de médecins, d'infirmières, pour faire face à cette quatrième vague. C'est une fermeture très progressive des capacités hôtelières, de façon à permettre, dans l'ordre et dans la bonne organisation, aux personnes de rentrer, de reprendre l'avion, de rentrer souvent dans l'Hexagone. C'est pas une expulsion du territoire, mais c'est l'invitation à quitter le territoire parce qu'ils ne sont pas en sécurité dans le territoire.
Le préfet de Martinique, Stanislas Cazel. Tension hospitalière de 227%. Situation qualifiée d'extrêmement préoccupante par l'ARS locale. Service de réanimation saturé. Les soignants sont obligés de trier les patients, comme l'explique Benjamin Garel, le directeur général du CHU de Martinique.
Tous les jours, on travaille avec un comité d'éthique pour faire ses choix de la manière la plus humaine possible. Mais avec une saturation de la réanimation, On a des gens qui vont très mal, qui devraient être pris en réanimation et on n'a pas de place pour les prendre. Et c'est affreux, en fait, on peut plus faire le meilleur geste technique comme on a l'habitude de faire. On leur demande de faire ce qu'ils peuvent dans des conditions très détériorées. Pour des patients graves, comme ils les soignent, ils vont être un infirmier pour deux patients. Et là, actuellement, en réanimation, ils sont un infirmier pour quatre patients. Et dans les étages, ils vont être un infirmier pour 12 patients, dont certains sont extrêmement graves. On a eu des vagues très différentes. La première, c'était surtout les problèmes logistiques. La deuxième, on a eu une épidémie de dingue très forte en même temps. Puis la troisième, on a frôlé la saturation, alors que là, on est complètement débordé.
Benjamin Garel, le directeur général du CHU de Martinique. Et en attendant la visite jeudi d'Olivier Véran, le ministre de la Santé aux Antilles, 240 soignants médicaux, non médicaux, 70 sapeurs-pompiers partent ce soir pour la Martinique et la Guadeloupe. La Guadeloupe qui, rappelons-le, est en quasi-confinement elle aussi depuis plusieurs semaines. Pour une mission d'appui de 15 jours. Et rappelons qu'en Martinique, moins de 22% de la population a reçu une première dose. Je préfère attendre le vaccin français Sanofi pour me faire vacciner. Un refrain des vaccinosceptiques qui ne plaît guère au patron de Sanofi France. Alors, il lance cet appel sur le réseau professionnel LinkedIn. N'attendez pas pour vous faire vacciner. Mais pour Olivier Boguillot, cette stratégie n'est pas bonne. Les vaccins autorisés sont sûrs et efficaces. Ils sauvent des vies, ralentissent la circulation du virus et il rappelle que le vaccin tricolore Sanofi n'arrivera pas avant plusieurs mois sur le marché. Et puis cette sortie du CDC américain, l'agence sanitaire de santé. Évitez les voyages en France si vous devez voyager en France. Assurez-vous d'être complètement vacciné avant le voyage. Ambiance, les Américains qui sont proportionnellement au même niveau que la France côté vaccination ont placé notre pays au niveau 4, l'avertissement sanitaire le plus élevé. À New York, la correspondance de Loïc Loury.
Évitez les voyages en France et si c'est une nécessité, alors faites en sorte d'être complètement vacciné avant de partir. Sur le site des CDC, cet avertissement s'affiche depuis hier sur la page dédiée à la France, désormais classée niveau 4, le maximum pour les risques liés au Covid. En raison de la situation actuelle, complète l'agence fédérale, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent contracter et propager des variants du virus. Mise en garde qui concerne aussi Israël, la Thaïlande ou encore l'Islande. Reste à savoir si l'avertissement sera suivi, à supposer qu'il parvienne aux oreilles des Américains. Le taux de vaccination, par ailleurs, est ici quasiment le même qu'en France et les contaminations y sont également en très forte hausse. Certains touristes américains pourraient donc estimer que le danger n'est pas plus élevé de l'autre côté de l'Atlantique. Cette décision des CDC semble surtout encore repousser la réouverture des frontières fermées aux Européens depuis mars 2020. New York, Loïc Loury, France Inter.
Et à ce jour en France, les contaminations sont élevées mais quasi stables. En revanche, le nombre de patients en hospitalisation ne cesse de grimper. Il a franchi la barre symbolique des 9000 à 9022.
7h09, au lendemain de la remise du rapport du GIEC, quelle suite le monde va-t-il donner à ses prévisions alarmistes?
Stabiliser le climat va nécessiter une réduction forte, rapide et durable des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone. C'est ce qu'a déclaré hier le coprésident du groupe d'experts qui a travaillé sur le sujet. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé dans la foulée que ce rapport devait sonner le glas du charbon et des énergies fossiles. Tout le monde est concerné, entreprises comprises. Parmi elles, Total, récemment rebaptisé Total Énergie, ce qui lui a valu déjà quelques railleries. Le groupe Maxime Debs veut pourtant montrer sa bonne volonté tout en appelant à ne pas brûler les étapes.
On veut tous vivre dans un monde climato-compatible, disait il y a encore 10 jours sur Inter le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné.
Après, il y a une question bien évidemment qui est plus compliquée, c'est le rythme auquel on peut réaliser cette transition énergétique.
En se rebaptisant Total Énergie avec un S, le groupe montre bien ce qu'il veut faire pour son patron. Encore faut-il intégrer le principe de réalité.
Je voudrais rappeler à tout le monde que l'économie mondiale aujourd'hui, à 80%, fonctionne avec des énergies fossiles. C'est comme ça que fonctionne notre économie. Donc, c'est pas une énergie du passé, c'est l'énergie du présent.
Pour 2050, Total Énergie se fixe comme objectif un pétrole qui représenterait moins de 20% de ses activités. Mais penser que ce dernier aura disparu est purement illusoire pour Patrick Pouyanné.
Il n'aura pas disparu parce que la problématique, c'est pas de couper la production, c'est comment on transforme la demande. Lorsqu'on dit transition, on dit pas du jour au lendemain. Et c'est tout le débat sur le rythme auquel on peut le faire.
Sur les 10 ans à venir, c'est 60 milliards de dollars, 3 dès cette année, que le groupe entend investir dans les énergies décarbonées pour amorcer la pompe.
Maxime Debs. Et au lendemain de ce rapport du GIEC sur le climat, cette victime collatérale du réchauffement climatique, le refuge de la Pilate en Isère. Il est fermé aux alpinistes cet été, perché à 2577 mètres d'altitude dans le massif des Écrins. Le bâtiment est posé sur un socle rocheux qui lui-même est soutenu par le glacier de la Pilate en contrebas. Mais ce glacier fond et le refuge se fissure. Sébastien Sabiron.
C'est une bâtisse massive perchée sur un promontoire rocheux qui domine le glacier de la Pilate. Dans les années 20, le glacier reculait de 3 à 4 cm par an, 20 mètres par an aujourd'hui, et le refuge menace de s'effondrer. Maria-Isabelle Lemeur, directrice adjointe de la Fédération française des clubs alpins et de montagne.
En se retirant, ce glacier provoque une décompression des parois rocheuses et ça libère des fractures en dessous du refuge sur le promontoire sur lequel est construit le refuge.
Très prisé des alpinistes débutants, le bassin glaciaire de la Pilate représente un quart de l'activité de la compagnie des guides de la Bérarde, coprésidée par Jean-Marc Vengeron.
Pour travailler, c'est plus compliqué parce que il faut partir plus tôt ou faire des choses à une autre période. Donc voilà, c'est toute une pédagogie et une adaptation aussi pour nous.
Et le recul des glaciers semble irrémédiable car le réchauffement nuit aussi à l'albédo, le pouvoir réfléchissant des surfaces. Christian Vincent, ingénieur de recherche au CNRS de Grenoble.
Avec la diminution du manteau neigeux, on a des surfaces de glace qui sont exposées de plus en plus rapidement. Cette glace, elle est sombre. On a une absorption du rayonnement solaire qui est plus importante, ça veut dire une augmentation de la fonte qui est accélérée.
Moins neigeuse et donc moins blanche, les Alpes se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète. Elles ont gagné plus de 2 degrés depuis le milieu du 19e siècle.
Sébastien Sabiron, après son interpellation hier en Moselle, une enseignante toujours en garde à vue, elle doit s'expliquer sur les raisons de la pancarte antisémite qu'elle portait lors de la manifestation anti-pass sanitaire samedi à Metz. Son domicile a été perquisitionné après son interpellation et le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que cette professeure d'allemand remplaçante dans des collèges et des lycées publics sera suspendue. À présent, ce thriller écologique demain au cinéma Rouge, qui aurait dû être projeté lors du Festival de Cannes 2020, finalement annulé, sort enfin en salle. Le réalisateur Farid Bentoumi nous emmène dans les Alpes, au cœur d'une usine d'alumine polluante et nocive pour les ouvriers, avec Zita Anroth et Samy Bouadjila en tête d'affiche. Alexis Demeyer.
Nour, alias Zita Enro, est embauchée comme infirmière dans l'usine où travaille son père. Elle va vite se rendre compte que ce responsable syndical ferme les yeux sur les accidents du travail et les maladies causées par des boues rouges par crainte d'une fermeture du site. Nour devient peu à peu lanceuse d'alerte.
Il ment, papa. L'usine n'a rien changé depuis 20 ans. Il fabrique de la même façon, donc il pollue de la même façon.
Ça n'a rien à voir. Soigne les petits bobos, colle tes petites affiches et viens pas saboter mon travail.
L'écologie contre l'économie, l'intérêt général contre l'intérêt familial, Rouge emprunte autant au thriller qu'à la tragédie grecque et au cinéma social.
Ça fait 30 ans que je bosse dans cette boîte-là. C'est pas vous qui ramassez la terre jour et nuit pour les mettre dans les fours, là. Vous êtes pas seul, on est 223.
Le cinéaste Farid Bentoumi a la bonne idée d'alterner les séquences nerveuses filmées caméra à l'épaule et les plans larges sur la verte forêt alpine lardée de coulées rouges. Certaines facilités, certaines imprécisions empêchent néanmoins ce film français de se hisser au niveau des Américains Dark Waters et Erin Brockovich, eux aussi consacrés à des scandales sanitaires.
Allez, Alexis Demeyer, Rouge donc au cinéma demain.
Laurence Thomas pour le journal Le Zoom dans une poignée de minutes. Cette semaine, on sonde la France à 8 mois de la présidentielle, un portrait de notre pays et ce matin, la consommation de drogue en milieu rural.